Tur Jesus Christus.
Une rencontre axée sur la paix ce matin en salle Paul VI du Vatican. Le pape a reçu 6000 jeunes Italiens membres du réseau national des écoles de la paix. L'occasion pour le Saint-Père d'inviter une nouvelle fois à semer des germes de paix. Nous y revenons en détail après ces titres. La paix qui semble bien lointaine au Proche-Orient, alors que la communauté internationale s'inquiète d'une nouvelle confrontation directe entre l'Iran et Israël. L'État hébreu qui semble avoir amorcé une riposte ce matin pour répondre aux tirs de missiles iraniens du week-end dernier. À la une de ce journal également, les interrogations du Qatar, médiateur dans les pourparlers israélo-palestiniens. Le pays du Golfe qui s'interroge sur son rôle, de plus en plus critiqué par ses alliés, on le verra. Et puis nous irons aussi dans l'est de l'Ukraine, dans la région de Kharkiv, où la population civile vit dans l'angoisse d'une nouvelle offensive russe de grande ampleur.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, éduquer à la paix et œuvrer pour elle. Le pape a reçu ce matin 6000 élèves et enseignants du réseau national italien des écoles de la paix. Depuis la salle Paul VI du Vatican, il les a remerciés pour leurs initiatives de formation, d'activités qui visent à promouvoir une nouvelle vision du monde, a-t-il dit. François qui a aussi exhorté tous ces jeunes à semer jour après jour les graines de paix avec enthousiasme dans la poursuite d'objectifs de beauté et de bonté au milieu de situations dramatiques d'injustice, de violence qui défigure la dignité humaine. Le compte-rendu de cette rencontre avec Jacques Ngol.
Face à un monde plein de tentations d'une vie aplatie sur le sol aujourd'hui qui risque de faire perdre la capacité de rêver en grand, François a manifesté sa reconnaissance à ce réseau des écoles de la paix pour sa passion et sa générosité à travailler sur le chantier de l'avenir, assurant qu'aujourd'hui plus que jamais, il faut vivre avec responsabilité en élargissant nos horizons, en regardant vers l'avenir et en semant jour après jour les graines de paix qui pourront germer et porter de fruits. Le Saint-Père les a par ailleurs invités à être des protagonistes et non des spectateurs de l'avenir, rappelant la tenue en septembre prochain à New York du sommet de l'avenir organisé par les Nations Unies à l'issue duquel seront signés un pacte pour l'avenir et une déclaration sur les générations futures, le but étant de relever les grands défis mondiaux de ce moment historique. Le risque qui menace notre avenir, a poursuivi le Saint-Père, nous concerne tous. Il interroge l'ensemble de la communauté humaine. Il requiert le courage et la créativité d'un rêve collectif qui anime un engagement permanent pour affronter ensemble les crises environnementales, économiques et sociales que traverse notre planète. François a invité pour conclure à rêver un monde où règne un climat de bienveillance, de confiance et d'amour. Un monde où l'individualisme, la distraction et l'indifférence cèdent la place à la capacité de prêter attention à l'autre, d'écouter ses besoins fondamentaux.
Jacques Ngol, un compte-rendu à retrouver bien sûr en détail sur notre site vaticannews.va. Des mots du souverain pontife qui prennent tout leur relief alors que le Proche-Orient continue d'être en ébullition. Après les explosions de ce matin en Iran, les appels à la retenue et à la désescalade se multiplie à travers le monde, signe d'une vive préoccupation au sujet de l'ouverture éventuelle d'un nouveau front de guerre dans la région. Tous les yeux sont tournés vers Israël, soupçonné ce matin d'avoir attaqué l'Iran moins d'une semaine après les tirs de missiles et de drones contre Israël. Mais les principaux concernés semblent être totalement étrangers aux événements de ce matin, Xavier Sartre.
En effet, Israël, que tout le monde présente comme l'auteur de cette attaque, n'a pour l'instant rien dit, rien de surprenant dans la mesure où les autorités israéliennes ne commentent jamais leurs opérations à l'étranger. Seule fuite, celle du ministre de la Sécurité qui s'est plaint sur les réseaux sociaux de la faiblesse de cette riposte israélienne à l'attaque iranienne du week-end dernier. Du côté iranien, même mutisme, le président iranien s'est exprimé publiquement, sans rien dire ce matin, des explosions qui ont eu lieu près d'une base dans le centre du pays, près d'Isfahan. Une agence de presse iranienne a même affirmé que les drones utilisés ne venaient pas de l'étranger, il s'agirait plus d'un incident mineur. En attendant, Téhéran a fermé son espace aérien et suspendu tous les vols pendant quelques heures ce matin. Alors pour l'instant, c'est la presse étrangère qui affirme que l'armée israélienne a bien lancé des drones sur le territoire iranien, que les États-Unis ont été mis au courant, mais ont désapprouvé cette initiative qui va à l'encontre de tous les appels de ces derniers jours à calmer le jeu. En réalité, Olivier, rien de très surprenant à cette discrétion des deux principaux belligérants. Leur affrontement s'est jusqu'à très peu déroulé dans l'ombre. L'important pour les Israéliens et les Iraniens, c'est que les messages envoyés soient arrivés à destination.
Xavier Sartre. Et puis les chefs de la diplomatie des pays du G7, eux, achèvent 3 jours de réunion sur l'île italienne de Capri. Ils appellent toutes les parties à empêcher une nouvelle escalade au Moyen-Orient après ces informations faisant état d'explosions en Iran. Les responsables de la diplomatie des 7 principales puissances qui ont redit aussi leur opposition à une opération militaire d'ampleur à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Ils dénoncent aussi dans leur communiqué final le nombre inacceptable de civils tués à Gaza. Gaza où les bombardements se poursuivent, les bombardements israéliens, les négociations, elles, pour parvenir à un cessez-le-feu piétinent également. Il y a 2 jours, le premier ministre qatari lui-même, Al-Thani, partageait son pessimisme concernant une prochaine solution négociée. Doha, médiateur clé du conflit entre le Hamas et Israël, qui est de plus en plus sous pression de ses alliés américains ou israéliens en particulier, dont certains demandent de réévaluer leurs relations avec le pays du Golfe. Le doute s'installe au Qatar. L'éclairage de notre correspondant régional Bastien Bory.
Loué pour son rôle d'entremetteur dans les conflits afghans, libyens et tchadiens, le Qatar découvre, cela dit, au Proche-Orient les limites de son pouvoir. Un manque d'influence qui lui est publiquement reproché par un premier ministre israélien et des parlementaires américains, certes guidés par des intérêts électoraux, mais dont les critiques ne sont pas si exagérées que cela. Car sur le terrain, plus les troupes israéliennes avancent dans Gaza, plus les chances de voir le Hamas négocier s'amenuisent. Et le Qatar en paie un prix, celui de voir son image de médiateur écornée, d'où ses menaces proférées aujourd'hui. Pour autant, il est peu probable de voir les Qataris prendre leur distance, eux qui cherchent au contraire à maintenir le Hamas en vie pour conserver un moyen de pression sur Israël. Quant aux rumeurs supposant que Doha envisagerait de chasser les leaders palestiniens vivant en exil sur son territoire, elles aussi semblent infondées, tant le Qatar y perdrait au change. Faire de la médiation dans le conflit israélo-palestinien au profit des États-Unis, c'est pour ce pays du Golfe un moyen de s'assurer que les Américains investissent en retour à Doha, vendent des équipements militaires et soutiennent les intérêts qataris dans le monde. Bastien Bory dans le Golfe Persique, I24 pour Radio Vatican.
Ouverture des bureaux de vote ce matin en Inde, le pays le plus peuplé de la planète, ouvre un marathon électoral de 6 semaines. Le BJP, le parti nationaliste hindou du Premier ministre Narendra Modi, compte bien continuer d'élargir sa domination sur le pays en obtenant notamment une majorité absolue au Parlement fédéral. Le Kenya s'interroge au lendemain de la mort du chef des armées et de neuf hauts responsables militaires du pays dans un crash d'hélicoptère. Les causes de cet accident ne sont toujours pas établies. 2 personnes ont survécu. Le général Francis Omondi Ogola avait notamment été formé à l'école militaire de Paris. 3 jours de deuil national ont été annoncés par les autorités kényanes. Une visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky sur le front de l'Est. Il était ce matin dans la région de Donetsk où l'armée russe a accentué ses combats ces derniers mois. Volodymyr Zelensky qui a décoré des soldats partageant sur les réseaux sociaux sa fierté de pouvoir compter sur son armée. L'Est de l'Ukraine où les bombardements russes s'intensifient toujours. C'est le cas dans l'oblast de Kharkiv, dans le village de Liptsy qui avait été occupé par l'armée russe pendant 6 mois au début de l'invasion, non loin de la frontière avec la Russie. Les habitants, eux, vivent toujours sous le feu des bombes dans la crainte d'une nouvelle offensive russe. Le reportage sur place d'Inès Gilles.
Dans le village de Liptsy, à 20 km de la frontière avec la Russie, les sirènes d'alerte ne s'arrêtent presque jamais. Pourtant, des habitants ont fait le choix de rester malgré le risque de bombardement. C'est le cas de Valérie, 59 ans. 3 jours plus tôt, un missile russe s'est abattu dans son jardin.
C'est ce cratère. La bombe est tombée quand j'étais dans ma maison. Elle a brisé les fenêtres alentour.
Sur l'artère principale, des dizaines d'habitants patientent derrière un camion. L'ONG ukrainienne Proliska distribue du matériel d'urgence. Du bois, du plastique, des bâches pour recouvrir les destructions en cas de bombardement. Les frappes sont quasi quotidiennes. Alexandre, 65 ans, qui vit avec sa femme, repart avec 2 planches en bois.
On avait déjà eu besoin d'aide pour une autre explosion. Celle-là, il y a 2 jours, a cassé les fenêtres de notre cuisine.
Face aux violences des frappes ennemies, le quotidien est invivable. Certains habitants craignent un retour des troupes russes dans la région. Inès Gilles, à Liptsy, pour Radio Vatican.
Voilà, avant de refermer ce journal, cette nomination d'un nouveau nonce apostolique à Monaco. Le pape François a nommé Mgr Martin Krebs pour représenter le Saint-Siège dans l'État princier. De nationalité allemande, celui-ci était jusqu'ici le nonce en Suisse et au Liechtenstein, mais avait été également représentant du Saint-Siège en Guinée et au Mali, ainsi que dans les États du Pacifique ou encore en Uruguay. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité tout au long de la semaine. Ce soir à 18h, vous retrouverez Marie Duhamel pour un nouveau journal. N'oubliez pas d'ici là toutes nos informations sur vaticannews.va et notre page Facebook. Excellent après-midi à tous.